RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/frenh.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs du monde entier. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi de la mise au point de la semaine et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter Mon Indonésie, le magazine culturel L'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et la mise au point de la semaine.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs et auditrices du monde entier, voici la nouvelle aujourd'hui. La conférence des CAFEO 2019 discutera la cartographie de l'atténuation des catastrophes. Le président de la République d'Indonésie a tenu des réunions bilatérales avec le premier ministre des îles Salomon. Voici le bulletin complet. Hermanto Dardak, le président général de l'Association indonésienne des ingénieurs, a déclaré que la conférence de la Fédération des organisations d'ingénieurs de l'ASEAN, ou CAFEO, en 2019 discuterait l'un des sujets concernant la cartographie de l'atténuation des effets des catastrophes. Hermanto Dardak à Jakarta déclarait récemment qu'il réunirait tous les experts l'année prochaine pour cartographier l'atténuation des catastrophes. L'Indonésie avait appris des catastrophes naturelles à Palu dans la Sulawesi centrale, notamment la liquéfaction et de l'existence des bâtiments conçus non résistants aux tremblements de terre. On discutera l'atténuation pour la communauté, les bâtiments physiques et le système pour les régions, en particulier dans les zones à forte densité des populations. La discussion sur les programmes d'atténuation des catastrophes se déroulera lors de la conférence CAFEO en septembre 2019 à Jakarta. Le président indonésien Joko Widodo a tenu une réunion bilatérale avec le premier ministre des îles Salomon, Rick Hoenipewela, en mars de la 26e conférence des coopérations économiques Asie-Pacifique à Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, samedi. Comme l'a indiqué le député du protocole de la presse et des médias à Jakarta samedi, le président Joko Widodo a exprimé l'espoir que l'Indonésie aura l'occasion de contribuer au développement économique des îles Salomon. Le président souhaite également une relation plus étroite en renforçant la coopération entre les deux pays, notamment en augmentant les investissements indonésiens dans les îles Salomon dans le domaine économique. Les îles Salomon s'intéressent au développement des produits dérivés de l'huile de palme. Le président Joko Widodo a également apprécié la ferme attitude des îles Salomon de respecter la souveraineté de l'Indonésie. Les îles Salomon soutiennent l'intégrité territoriale de l'Indonésie. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a déclaré que l'Indonésie était l'un des pays avec la plus grande population d'islam dans le monde, plus pacifique que les autres pays islamiques aujourd'hui. C'est ce qu'a déclaré le vice-président Yusuf Kalla en prononçant un discours scientifique à l'Université islamique de Bandung dans l'ouest de Java en commémoration du 6e anniversaire cité par Antara le samedi 19 novembre. Il a expliqué que près d'un tiers des pays islamiques du monde connaissent des conflits. Par conséquent, le vice-président Youssouf Kala espère que l'Indonésie pourra continuer à maintenir la paix entre les différences qui se produisent aujourd'hui. S'il y a un conflit comme l'Irak, en Syrie, la période de relance prendra au moins 30 ans. Le ministère des Affaires étrangères organise un cours sur l'huile de palme durable indonésienne. L'Agence d'évaluation et de développement des politiques du ministère des Affaires étrangères a organisé un cours régulier sur l'huile de palme 2018 du 19 au 26 novembre 2018 pour socialiser l'huile de palme durable indonésienne. Le ministère des Affaires étrangères organise l'activité en collaboration avec l'Agence de gestion des fonds de plantation d'huile de palme, l'Institut d'agriculture de Bogor, IPB, et l'Université de Jambi, UNJA, cela a été dit récemment à Jakarta. L'activité se déroulera pendant 8 jours, à Safa Bogor pendant 3 jours et à Jambi pendant 5 jours. L'activité réunira 15 participants étrangers de 11 pays, à savoir l'Australie, les Pays-Bas, la République tchèque, la Hongrie, l'Angleterre, l'Italie, la France, la Pologne, la Russie, la Slovaquie et l'Espagne. Ils viennent de divers milieux tels que des consultants, des chercheurs, des artifices et de l'environnement et des universitaires. Au cours de la formation, les participants acquerront une compréhension globale dans le dossier du palmier à l'huile du point de vue des producteurs de palmiers à l'huile qui ne peuvent être séparés des aspects de la culture locale. Les participants étrangers à cette activité devraient fournir des informations correctes sur l'Indonésie indonésienne de l'huile de palme. La Chambre des députés, DPR, et la Fondation de Westminster pour la démocratie, WFD, ont convenu de collaborer au soutien de l'initiative de transparence du Parlement. L'accord est le résultat d'une réunion du vice-président de la Chambre des députés, DPR Fadli Zon, avec le directeur général de WFD, Anthony Smith, à l'ambassade d'Indonésie à Londres récemment. Fadli Zon a déclaré dans une déclaration à la presse reçue par Radio République d'Indonésie samedi que la Chambre des députés, DPR, avait collaboré avec la Fondation de Westminster pour la démocratie, WFD. Le vice-président de la Chambre, Fadli Zon, qui est actuellement président de l'Organisation mondiale du Parlement contre la corruption, a expliqué le rôle actif joué par GOPAC dans la diffusion des principes de la transparence parlementaire dans divers forums internationaux, comme dans le Forum de l'Union interparlementaire, UIP, de IACC, Conférence internationale contre la corruption, et le Forum de G20. Dans ce contexte, le Parlement indonésien, GOPAC et WFD ont convenu d'encourager l'initiative de transparence du Parlement. Lors de la réunion, Fadli Zon a également présenté les premières élections simultanées en Indonésie qui se tiendront en 2019. L'élection de 2019 sera la plus grande élection simultanée au monde. C'est ce d'Itauditis, c'était le journal aujourd'hui.
La mise au point de la semaine vous présente les questions d'actualité dans la semaine.
Bonsoir à tous. Voici la mise au point de la semaine intitulée « L'ASEAN apprécie les progrès des efforts de paix en mer de Chine méridionale ». Les dirigeants des pays d'Asie du Sud-Est et de la Chine ont salué les progrès des efforts pour rétablir la paix dans le conflit de la mer de Chine méridionale. Ces efforts sont entre autres par le code de conduite ou abrégé en COC. Selon eux, ce progrès montre que l'ASEAN peut résoudre ses propres problèmes. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que la date limite pour l'achèvement du code de conduite en mer de Chine méridionale avait été réaffirmée par le premier ministre chinois Li Keqiang au sommet ASEAN-Chine à Singapour mercredi. La première négociation après le projet de document unique est accepté, sera achevé l'année prochaine. Il sera réalisé simultanément avec le temps cible de 3 ans de COC. Le directeur général de la coopération de l'ASEAN, Jos Tavar, a déclaré que la cible sur 3 ans est à partir de cette année. Le temps cible serait utilisé à la fois en termes de momentum et de temps. Lié aux documents dans le processus vers un code de conduite, il y aura 3 lectures de textes de négociation unique. Selon Jos, il sera utilisé pour les négociations. Li Keqiang a déclaré que la création du COC est un bon exemple de la capacité de la région à résoudre les propres conflits. La Chine a déclaré pour la première fois son engagement fera un code de conduite au plus tard dans les 3 ans. Il y a des progrès avec une meilleure stabilité et des progrès vers un seul projet de code de conduite en mer. Le conflit de la mer de Chine méridionale impliquant plusieurs pays est un problème lat qui n'est pas encore résolu. La Chine était l'une des parties pendant les dernières années ont construit des petites îles autour de la mer de Chine méridionale. Le président philippin, Rodrigo Duterte, dont le pays est la partie au conflit, a déclaré qu'il n'y avait aucun problème avec la Chine. Tout se passe très bien entre la Chine et le pays de l'ASEAN. Selon Duterte, une règle claire évitera les erreurs de calcul et les risques de perturbation ou le potentiel d'affrontement qui pourra déclencher une action militaire basée sur un accord de défense commune. Chers auditeurs, c'était la mise au point de la semaine. Bonsoir tout le monde, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 18 novembre.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
On commence par le 18 novembre 1918, l'indépendance de la Lettonie. La Lettonie est un État unitaire sous la forme d'une république avec un gouvernement parlementaire. La Lettonie est divisée en 118 régions, à savoir 109 municipalités et 9 villes. Il existe 5 zones de planification. Ce sont Kurzeme, Latgalia, Riga, Vidzeme et Zemgale. La République de Lettonie a été créée le 18 novembre 1918. Elle a été occupée et contrôlée par l'Union soviétique de 1940 à 1941 et de 1945 à 1991 et par l'Allemagne nazie entre 1941 et 1945. La Révolution chantante pacifique de 1987 à 1991 et la manifestation de la route baltique du 23 août 1989 ont élargi les possibilités d'indépendance des pays baltes. La Lettonie a déclaré la récupération de l'indépendance de facto le 21 août 1991. La suite, le 18 novembre 1993, 21 partis politiques en Afrique du Sud ont approuvé une nouvelle constitution. L'Afrique du Sud a terminé le régime d'apartheid le 18 novembre 1993. 21 partis politiques en Afrique du Sud ont approuvé une nouvelle constitution plus démocratique telle que la constitution provisoire. Alors qu'elle est appelée la constitution provisoire, parce qu'on va créer une constitution plus permanente. La constitution provisoire change le Parlement dans un système à 2 pièces qui se compose de l'Assemblée nationale et le Conseil national du Parlement ou du Sénat, alors que la constitution comprend également la Déclaration des droits. Le changement de tricaméral est devenu le système bicaméral et la Charte des droits est considérée comme le fondement de nouvelle vie plus démocratique en Afrique du Sud. En La dernière, c'est le 18 novembre 2004, la signature de la ratification du protocole de Kyoto par la Russie. Le protocole de Kyoto à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est un accord valide dans lequel les pays industriels vont réduire leurs émissions de gaz à effet de serre collectivement de 5,2% par rapport à 1990. L'objectif est de réduire les émissions de 6 effets de serre, à savoir le dioxyde de carbone, méthane, oxyde nitro, hexafluorure de soufre, HFC et le PFC. Ils vont coopérer pour réduire les émissions. Le protocole de Kyoto a été adopté à Kyoto en décembre 1997, puis a été ouverte pour la signature le 16 mars 1998. Après la ratification officielle par la Russie le 18 novembre 2004, le protocole de Kyoto est finalement entré en vigueur le 16 février 2005. C'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir tout le monde, voici le programme de mon Indonésie. Aujourd'hui, on va parler de l'homme le plus rapide de l'Asie du Sud-Est a fondé SARS. Chers auditeurs, Suryo Agung Wibowo, l'homme le plus rapide de l'Asie du Sud-Est, a trouvé beaucoup d'erreurs faites par des jeunes athlètes indonésiens quand il étudiait l'athlétisme. Cet homme, qui est maintenant un fonctionnaire fonctionnel, a finalement fondé Suryo Agung Running School, ou abrégé en SARS, une école de course. Il a déclaré que l'idée de créer l'école de course de Suryo Agung émergeait depuis 2016. Comme la déclaration du bureau de la Radio Nationale à Jakarta, Suryo Agung Wibowo a dit mardi 13 novembre que l'idée de créer une école spéciale était basée sur l'expérience des athlètes du niveau de l'équipe nationale lorsqu'il devenait un entraîneur de la force et du conditionnement physique d'athlètes nationaux. Après avoir quitté le monde de la cure en 2013, Suryo a continué sa carrière d'entraîneur. L'homme qui a déjà été footballeur a empoché une licence d'entraîneur physique national ainsi que l'Association australienne de force et de conditionnement pour le niveau 1. Au début, il a été devenu entraîneur physique pour l'équipe de volleyball de plage, puis a continué comme entraîneur physique pour l'équipe cycliste. Pendant qu'il était entraîneur physique, Suryo et ses collègues du programme de Indonesia Emas, ou PRIMA, un programme créé par le gouvernement pour accélérer les performances sportives, s'inquiéter des capacités athlétiques de base et du mode de vie des athlètes qui venaient de commencer un entraînement national. Le nom Suryo Agung Wibowo est éternel dans l'histoire de l'athlétisme dans le pays, même en Asie du Sud-Est. Jusqu'à présent, Suryo est toujours classé détenteur du record de 100 mètres, dont le record est 10,17 secondes aux Jeux de l'Asie du Sud-Est en 2009 au Laos. L'homme né à Surakarta le 8 octobre 1983 était également le détenteur du record national de 200 mètres, dont le record est 20,76 secondes. Il a dit qu'aujourd'hui, il accordait la priorité au développement des athlètes et donnait des connaissances aux athlètes sous la forme d'école spéciale. Suryo Agung Running School, ou abrégé en SARS, est géré par 5 entraîneurs, y compris Suryo Agung Wibowo. Suryo Agung Running School fournit des cours régulières et privées dont les frais sont différents. En payant les frais d'inscription, les participants obtiendront un abonnement à vie, mais si le participant saute et n'a aucune nouvelle pendant 3 mois, ça expirera. Dans chaque exercice, Suryo Agung Running School, ou SARS, fournira les capacités athlétiques correctes aux jeunes enfants. Il présentera le mouvement correct. Chers auditeurs, voilà mon Indonésie.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voines.id/french.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, on se retrouve avec moi Tiwi dans la rubrique du Magazine Culturel. Comme d'habitude, vous pouvez écouter notre émission par la diffusion en direct à www.voinews.id. Aujourd'hui, je vous invite à la province de Sumba de l'Est pour profiter de la beauté de plage de Walakiri. Restez donc avec nous à RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. Walakiri est l'une des plages de Sumba de l'Est, plus précisément dans le village de Watumbaka, du district de Pandawai, de la région Sumba de l'Est, la province de Nusa Tenggara de l'Est. Cette plage est calme, est en pente et a une étendue de sable blanc. La plage de Walakiri n'est pas loin du centre-ville de Waingapu, à environ 24 km, et on peut y arriver dans 30 minutes environ. L'accès à Walakiri est très facile car il se trouve non loin de l'autoroute à Malolo, un vaste district situé à Sumba de l'Est. Le transport en commun étant encore difficile, mais les visiteurs peuvent louer une moto ou une voiture de Waingapu à Walakiri. Les auditeurs, même si cette attraction touristique qui se trouve près de zones résidentielles et qui est très fréquentée par les touristes nationaux et étrangers, elle est gratuite. Cette plage est de plus en plus fréquentée par les touristes après Mira Lesmana, la célèbre réalisatrice indonésienne qui a produit le film Pendekar Tongkat Emas, a popularisé cette plage sur son compte d'Instagram. La plage de Walakiri possède une mangrove unique dont le sable est blanc, parsemé de cocotières qui fournit de l'ombre et l'atmosphère confortable. Chers auditeurs, le caractère unique de la plage de Walakiri est de type différent de texture de sable entre le sable de la plage et le sable dans la zone de recul de la mer. Le sable sur la plage a une texture semblable à celle du sable de la plage en général, tandis que le sable dans la zone en recul de la mer a une texture semblable à celle du poudre ou du ciment humide qui sèche et durcit. De plus, il existe une ligne de démarcation entre les deux types de sable. Walakiri est une plage vraiment unique et est un endroit parfait pour voir le coucher du soleil. Les mangroves pygmées au bord de la plage sont une autre unicité. Et si l'eau de mer est haute, rien ne rend cette plage de Walakiri si spéciale. Mais lorsque l'eau de mer se retire, La silhouette de Palétuvière ressemble à une danseuse. C'est ce qui la fait comme un phénomène unique. De plus, lorsque le soleil se couche, la combinaison de la couleur du ciel crépusculaire et de la silhouette de la mangrove a vraiment un sens artistique. Pour cela, n'oubliez pas de préparer une caméra pour capturer le moment. Chers auditeurs, voilà l'édition de Pesona Indonesia, magazine culturel cette fois-ci, qui parle de la plage de Walakiri. Et si vous visitez Sumba, en particulier Sumba de l'Est, la région de Sumba, allez à la plage de Walakiri. Et n'oubliez pas de préparer votre meilleur appareil photo, car de beaux souvenirs rendront la vie plus heureuse. Demain, nous nous retrouverons avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup. Au revoir.
Warna-warni. L'Indonésie en couleur présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Les auditeurs de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie, on se rencontre dans la rubrique « L'Indonésie en couleur » avec moi, Tiwi. Cette édition va parler de « On conserve la qualité du batik en appliquant les normes nationales indonésiennes » ou en indonésien « Standard National Indonesia » ou abrégé en SNI. Restez avec nous à RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. Parlons de cœur de 3,3-5 kHz ou par www.voinews.id. Chers auditeurs, batik est l'une des richesses de l'art et de la culture indonésienne reconnue par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation scientifique et culturelle, ou UNESCO. Le batik est une technique javanaise permettant de décorer des tissus à l'aide de cire et de teinture en utilisant un outil chanting. Depuis que l'UNESCO l'a reconnu, le batik a continué de croître et est de plus en plus utilisé par la communauté. La technique de fabrication est non seulement le batik écrit ou batik fait à la main, mais aussi le batik au tampon et le batik imprimé. Le type de tissu utilisé et la combinaison est de plus en plus diversifiée. Le chantre de l'artisanat et du batik en indonésien, Balai Besar Kerajinan dan Batik, ou abrégé en BBKB, encourage les petites et moyennes entreprises à produire du batik conformément aux normes nationales indonésiennes de batik ou Standard National Indonesia, abrégé en SNI, afin que les produits fabriqués soient compétitifs. Retno Widiastuti, responsable du domaine de la certification et de la calibration du chantre de l'artisanat et du batik à Yogyakarta, a déclaré qu'il était important pour les artisans et les hommes d'affaires du batik d'obtenir la certification de la norme nationale indonésienne. Son objectif est d'assurer une protection contre l'authenticité du batik dans diverses régions d'Indonésie. Le produit de batik nécessite également une norme nationale indonésienne ou SNI, car il existe beaucoup d'imitations de batik. Cela a été dit par Retno dans la réunion avec la direction de la recherche et du développement, la direction générale des institutions scientifiques et technologiques et de l'enseignement supérieur au ministère de la recherche de technologie et d'enseignement supérieur à Jogja le vendredi 16 novembre 2018. Retno a déclaré que son parti servait de certification pour les partis qui souhaitent obtenir le SNI. Elle ajoutait qu'il était également nécessaire de sélectionner des produits vendus à Yogyakarta pour conserver le batik au patrimoine mondial. Et selon Retno, la certification vise également à encourager la réalisation de produits de qualité conformes aux normes. Chaque petite et moyenne industrie, ou IKM, peut avoir plus d'un certificat de SNI. Le Centre de l'artisanat et du batik en indonésien a également émis une marque de batik pour IKM qui remplit les conditions requises sous la forme d'étiquettes épinglées sur des produits afin de garantir la qualité. Le certificat de marque de batik est valide pour 3 ans et IKM sera réévalué pour garantir le produit. En appliquant SNI, on espère que la qualité et l'authenticité du batik, qui est une des richesses de la nation indonésienne, reste garantie. Chers auditeurs, c'est tout l'Indonésie en couleur cette fois-ci. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Au revoir!
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir les amis, merci d'écouter La Voix d'Indonésie. Nous sommes de nouveau ensemble dans la rubrique Courir et Musique. L'équipe de l'émission française de La Voix de l'Indonésie vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales, le rapport d'écoute et le message. Nous allons saluer nos auditeurs et aussi présenter des chansons indonésiennes. Dans cette édition, nous allons vous présenter des chansons de Raisa. Ses amis, avant de dire bonjour aux auditeurs, écoutons la chanson intitulée Teduhnya Wanita.
Tersiarkan kisah lelaki tangguh bagai satria, namun saat ia tertati takluk oleh dunia. Cerminan sisi terbaikmu, lindungi hatinya sekalipun di dalam amarah. Tajam rasa racun dunia.
Raisa, la chanteuse dont le nom complet est Raisa Andriana, a commencé à être connue du public après avoir présenté la chanson Serbasala, publiée en 2011. La chanson, qui a été publiée à la fin de 2017, a été faite spécialement pour Raisa afin de prendre part à la bande originale du film Ayat Ayat Cinta 2. Maintenant, je vais saluer Narmouchi Noiri, BP 154 bis Sétif, 19000 Algérie. Bonsoir France à Jean-Marie Monplot, 7 rue de Siam, 56100 Lorient, France. Abdelkader Kei, BP 669 Al-Wahad Ouargla, 30000 RP Algérie. Merci à vous de nous écouter et envoyer les courriers et le rapport d'écoute et email. Restez toujours en contact avec nous. Chers amis, en écoutant maintenant d'autres chansons de Raïssa intitulées Lagu Untukmu ou Chanson pour vous.
Sungguh remuk rasa hatiku
Voilà la chanson intitulée Lagu Untukmu ou Chanson pour vous a été sortie le 25 mai 2018. Meilleure salutation à Maurice Mercier en France, précisément à 1037 rue François Giraud, 69400 Villefranche-sur-Saône. Et puis il y a Omar Lassas, BP530 Bureau de Poste Émile AEK, 29008 Mascara Azeri. Et puis Sergi Giofani, via Sibari, 398149 Messina, l'Italie. Comment ça va, mes amis? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé, restez toujours en contact avec nous. Merci de continuer à suivre nos programmes. On écoutera de chansons chantées par Raïssa, intitulées Anganku Anganmu ou Mes rêves et tes rêves, un duo avec Ishiana Saraswati et My Kind of Crazy, la dernière chanson publiée le 18 octobre 2018. La collaboration avec le DJ indonésien Dipa Barus. C'est la fin de ce courrier. Merci à toutes celles et à tous qui nous ont écrit à envoyer des bulletins de réception. C'était agréable de pouvoir m'entretenir avec vous aujourd'hui. Cette émission est maintenant terminée. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir.
Ku rasakan tajam menusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati. Dulu kita pernah saling memahami. Segan merasa telah menyakiti. Kita terlalu perasa. Setiap kata membenci. Oh,
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie et le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Rasa rindukah ataukah tanda bahaya? Aku tak peduli, ku terus berlari. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Firasatku ingin kau tuh cepat pulang. Cepat kembali, jangan pergi lagi. Dan lihatlah sayang, hujan turun membasahi seolah ku berair mata.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4 et 5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @VOIINDONESIA ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.